Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, en ce week-end du 1er mai, des livres pour vous évader. Nous irons en pleine nature avec un roman suisse, dans les vignes avec un changement radical de vie. Nous parlerons aussi de la bienveillance et d'un livre distrayant écrit par un académicien. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et si vous changiez de vie ? C'est l'expérience vécue par Laure Gasparotto qui a décidé de tout quitter pour devenir vigneronne. Une aventure complexe entre le rêve et la réalité brutale du monde agricole. Nous irons en pleine nature avec la Suissesse Duna Lou qui publie un roman initiatique qui prône un retour au dépouillement mais aussi aux valeurs profondes de l'humanité. Un grand bol d'air nécessaire en ces temps troublés. Vous entendrez aussi l'académicien Jean-Christophe Ruffin qui publie en poche son roman à succès autour d'Aurel le Consul et le Belge niçois Didier Van Kovelaert qui lui aussi sort en poche son livre sur la bienveillance, une méthode pour mieux vivre dans ce monde brutal. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France, à Aix-en-Provence, dans la librairie bonjour. Goulard. Les beaux jours arrivent, vous êtes content?
Oh, très.
En Suisse, c'est Yasmina Giacquinto, libraire à Martigny, dans la librairie du Baobab, qui est avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Un petit isolement pour vous en ce moment, hein?
Ouais, un isolement qui va durer 10 jours, oui.
Ouais, bon courage à vous, Yasmina, pense à vous. Au Canada, on retrouve Josiane Letourneau, libraire à Montréal, dans la librairie du Square. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
En pleine forme, vous?
Ben oui,
bon,
c'est sûr.
Parfait. On commence tout de suite avec une anecdote personnelle de votre vie de libraire, Josiane.
Oui, une vie de libraire qui est marquée avec des moments où je me mets le pied dans la bouche ou plutôt dans le plat, puisqu'on est à la librairie francophone, avec des écrivains. Alors encore une fois, j'ai un écrivain connu qui vient à la librairie, avec qui j'ai un super bel échange au comptoir, on jase tout ça. Et là, il s'éloigne, je le perds de vue, j'ai une collègue qui vient un peu me taquiner. Et évidemment, à la blague, je le pense pas, je lui dis « Ouais, je crois que je lui ai tombé dans l'œil ». Et sans savoir qu'il était à peine à 3 mètres de moi, derrière une colonne, et je le vois surgir et à son visage, c'est clair qu'il m'a entendu. Alors, j'ai envisagé changer de job, changer de ville, me faire faire une chirurgie complète du visage. Et puis finalement, avec le recul, ça donne des pas pires anecdotes.
Oui. Bah oui, c'est pas mal. C'est pour nous, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, du coup?
Il a rien dit. Il a juste été vraiment très expressif.
Ouais. Donc, il s'est passé quelque chose ou pas?
Non, pas du tout. Ça s'est arrêté là.
Enfin. Bon, merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Si mon livre ou mon vin qu'il relate était une musique, ce serait Les Paradis Perdus de Christine and the Queens, sorti lors de mes premières vendanges en 2014. Inspiré de la chanson de Christophe, qui porte le même titre, cette œuvre montre comment une création originale peut naître d'une transmission, pas forcément filiale, mais spirituelle, cultivée, respectueuse et reconnaissante. En ce sens, le vin est aussi un art. Bonjour Laure Gasparotto.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous sur cette reprise du titre de Christophe, mort il y a un an. Regretter Christophe, c'était le 16 avril 2020. Le vin est un art, hein, c'est ce que vous écrivez. J'ai lu la dernière page de votre livre.
Oui, je vois.
Comme un épilogue. En quoi est-il un art, le vin ?
Il est un art parce qu'il fait appel à la liberté de chacun, à sa création, à sa philosophie de vie. Quand on achète une bouteille de vin, on achète aussi la pensée d'un homme, ses choix, tous ses choix. C'est un art parce que quand on fait un choix au moment de faire des gestes pour produire le vin, on ne peut jamais revenir en arrière. Quand on choisit d'assembler plusieurs cépages, on peut plus les désassembler. Et chaque choix que le vigneron fait avancer les choses et il n'y a pas de recul possible.
Oui, c'est définitif quasiment.
Voilà.
Ouais. Laure Gasparotto, vous racontez donc votre changement de vie à l'âge de 40 ans, alors que vous êtes journaliste installée à Paris, en pleine séparation avec votre mari, qui travaille d'ailleurs dans le monde de l'édition. Vous partez dans le Languedoc, dans le sud de la France, aidé financièrement par des amis parisiens, ça aide. Comment prend-on cette décision-là?
Alors c'était un coup de folie. Rétrospectivement, je pense que mon projet était un projet d'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit pendant que j'étais vigneronne, et ce livre en particulier m'a accompagnée toute ma vie de vigneronne. En fait, c'était un journal encouragé par mon éditeur Christophe Bataille chez Grasset, qui, quand il a appris que j'avais cette vie, m'a dit « il faut absolument que tu prennes des notes ». Et puis les années passaient, je lui donnais toujours pas mon livre. Ouais. Et un jour, je lui ai dit, je vais pouvoir te le rendre puisque je connais la fin. C'était au moment où j'ai décidé de vendre mon vignoble.
Là, vous dites la fin, du coup, oui.
Pardon.
Ben, c'est pas comme ça que ça se passe au début.
J'ai spoilé tout le monde.
Oui, c'est ça. Parce que c'est un rêve de vie. C'est surtout ça, l'histoire de ce livre. Alors, c'est que vous allez jusqu'au bout de vos rêves. Et alors, changer de vie, vous le dites, tout le monde a eu envie de ça à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui, en ce moment, nous écoutent, en ce week-end du 1er mai en plus, et qui ont envie de changer de vie? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Mais d'abord, il faut traverser ses rêves, sinon on reste assis et on meurt. En revanche, peut-être le faire moins la fleur au fusil que moi. Donc, mon coup de folie a commencé par un coup de foudre. Le coup de foudre de ce paysage du Larzac que je ne connaissais pas, que je découvre. C'était au printemps. En plus, peut-être Paris était trop gris à ce moment-là. Et j'arrive dans le sud, c'est un peu comme un peintre qui découvre la lumière du sud. Tout à coup, je trouve les parfums du sud, la lumière. C'était
luxuriant. Vous avez trouvé votre lieu, quoi.
Voilà, j'ai trouvé vraiment mon lieu.
Donc, qu'est-ce qu'on conseille à ceux qui veulent changer de vie? De trouver leur lieu d'abord?
D'abord.
Et d'y aller quoi qu'il en coûte?
Ah, peut-être pas quoi qu'il en coûte, mais justement, pas quoi qu'il en coûte. Peut-être préparer, faire quelque chose de structuré. Moi, je n'ai absolument rien structuré. Eh oui, d'ailleurs, j'ai acheté des vignes sans savoir même où j'allais vinifier mes raisins. C'est qu'après que je me suis dit, mais au fait, le vin, il faut le faire quelque part. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait les choses à l'envers.
7 parcelles, vous achetez 7 parcelles de vignes avec 3 cépages, Syrah, Grenache et Carignan.
Voilà.
Pour produire environ 15 000 bouteilles, ça coûte combien une vigne?
Alors, dans le Languedoc, mon rêve était totalement possible puisque c'est 15 000 euros l'hectare.
Oui.
Après, ça dépend où on s'installe.
Une parcelle, c'est combien d'hectares?
Moi, mes 7 parcelles faisaient 5 hectares. Oui. Une parcelle, ça dépend vraiment.
Oui, donc ça fait à peu près 70-80 000 euros. Vous avez payé ça?
Voilà, 75 000 euros.
Bon, on a retrouvé une vigneronne québécoise, figurez-vous, dans la région de Montérégie. Un document TV5 Monde, écoutez.
Pour être un bon vigneron, ça prend, oui, un engagement sans limite. Ça prend des convictions sur ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux produire. Comme tout agriculteur, en général, on compte pas nos heures, mais c'est qu'il va y avoir des moments de repos. Là, on a tout l'hiver pour se reposer, puis il est long l'hiver au Québec.
Vous êtes reposée l'hiver, pas tant que ça, vous, hein?
Non, je ne me suis jamais reposée. Là, elle plaisante, parce qu'en hiver, il faut tailler la vigne, faut s'occuper du vin, l'élever.
Ouais.
Et alors, ça m'a fait rire, parce qu'elle dit « on ne compte pas nos heures ». Je pense que quand on est vigneron, c'est peut-être la seule chose qu'on ne compte pas.
Ouais.
Parce que, justement, ceux qui veulent changer de vie, si je dois leur donner un conseil, c'est peut-être d'apprendre à compter. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais sans succès.
Alors, arrivée dans le sud, vous êtes la parisienne, hein, Laure Gasparotto. Il y a des clichés dans un sens comme dans l'autre. Un peu condescendant d'ailleurs, vous vous inquiétez pour la manucure de vos mains. Vous pointez la voiture indispensable en région et dont on n'a pas besoin à Paris. Vous découvrez la vie en tongs, comme si, je cite, vous étiez toujours en vacances. Vous savez que c'est le mode de vie du sud et qu'il y a plein de gens à travers le monde qui ne portent que des tongs et des sandales et qui travaillent quand même, hein. Vous êtes un peu dans l'illustration de la condescendance parisienne en disant ça, non?
Je me suis un peu caricaturée pour rire de moi-même aussi et que le livre soit lisible par tous. J'ai un peu décrit la parisienne bêtasse qui arrive la ruralité
oui.
pour vraiment mettre le contraste. Mais quelquefois, je pense que j'ai vraiment été ça. Mais j'en ai conscience. Et justement, cette expérience m'a permis aussi de me regarder dans un miroir, savoir qui j'étais et de traverser qui j'étais. D'essayer de devenir quelqu'un d'autre même. Même un soir, pour pouvoir mieux parler à mes nouveaux amis vignerons, je me suis dit qu'il fallait absolument que je regarde le match de rugby à la télé pour être vraiment au fait de tout. Et donc, j'ai essayé d'apprendre, de devenir, de changer ma structure mentale. Mais voilà, je ne suis malheureusement pas vigneronne, mais je le reconnais. Mais je les comprends beaucoup mieux maintenant.
Mais alors, c'est difficile de s'intégrer du coup dans ce monde-là, parce que vous dites qu'il y a des héritages. Héritages familiaux, héritages culturels, l'héritage du métier aussi, on se la transmet la vigne. Et vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe, si je peux dire. Vous achetez des vignes comme on achète une maison dans le sud et puis on attend de voir. Sauf que vous y allez, vous travaillez, vous êtes courageuse, hein, vraiment. Mais ça fait flop, quoi.
Ben oui, voilà. Mais c'était pas une maison dans le sud, parce que justement, je deviens une vigneronne nomade.
Oui,
c'est tout le contraire de ce que j'aurais souhaité.
Mais vous n'avez même pas la maison, en plus.
Voilà, non, parce qu'en fait, en voulant devenir vigneronne, je voulais m'enraciner, et c'est tout le contraire. En fait, cette vie m'a renvoyée au fait que je suis sans racines. En fait, en achetant ces vignes, c'est un outil de travail que j'ai acheté. Pas du tout un lieu de vie.
Ouais.
Ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être mieux de choisir une maison et de s'occuper des vignes après que faire l'inverse. Et en fait, on n'achète pas qu'un outil de travail quand on veut faire du vin. On doit acheter un nouveau mode de vie et s'y inscrire.
Bon allez, on va aller voir du côté de nos libraires qui ont lu votre ouvrage. Le Canada et la Suisse, on commence par qui ?
Le Canada, puisqu'on en vient.
Allez, allons-y. Le Canada, avec vous, Josiane Nétourneau, Laure Gasparotto et son livre, vous ont-ils séduit ?
Oui, en fait, ce que je garde avec moi par-dessus tout de ma lecture de votre livre, c'est la passion. Cette passion pour le vin que vous avez et qui se sent, peu importe que vous parliez de cuve, de tuyau, de taille ou de cépage, on le sent dans tous vos mots, dans tous les menus détails que vous nous décrivez, dans les paysages et les fruits. Cette passion, pour moi, c'est l'arôme absolu de votre livre et elle a toute mon admiration, cette passion.
Bien. Yasmina Giaquinto en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, complètement. Et puis, je ne peux pas commencer ma chronique sans vous dire que je suis née à Fuy, dans les vignes du Valais.
Ah.
Où je reconnais Marie-Thérèse Chapa.
Exactement.
Une grande vigneronne.
Je ne connais pas du tout. Allez-y, parlez entre vous. Allez-y, Yasmina. On la salue au passage.
Je trouve que la responsabilité que vous portez tout au long de vos témoignages est si consciente et incarnée qu'elle sonne toujours juste, car vous êtes restée authentique. Je vous ai vue forte, courber le dos, souffrir et puis relever la tête parce que vous êtes allé jusqu'à la fin de cette quête de vous-même. Vous mettez votre cœur à nu, non pas pour vous montrer, mais pour avancer plus forte et plus proche de qui vous êtes vraiment. Donc vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé lire votre folie d'avoir été vigneronne.
La folie de Laure Gasparotto. Figurez-vous, Laure, effectivement, qu'il y a des vignerons. En Suisse, il y a même la fameuse fête des vignerons tous les 20 ans. C'est formidable, il y a plein de vins là-bas. On a retrouvé un document de la RTS à ce propos.
Quand je suis revenu et puis que je suis venu pour travailler à temps plein, il m'a clairement dit qu'il fallait que j'aille faire autre chose que vigneron. Il voudrait pas que je finisse comme lui, fatigué, un peu usé, à passer 60 ans.
On a toujours l'œil sur le ciel pour voir le temps qu'il va faire. On a toujours un souci. Mon père, il est mort le 15 juillet 2016, à 94 ans, donc mort de sa belle mort. La veille, il me disait comment ça va à la vigne, est-ce qu'il y a de la maladie, est-ce que le raisin est joli, est-ce que. C'est des trucs comme ça. Voilà, je voulais pas qu'il vive ça. Quand on fait ce métier avec passion, il faut faire attention de ne pas y laisser sa peau.
Oui, il ne faut pas y laisser sa peau. Alors, vous êtes d'accord ?
Oui, c'est vrai que pour être vigneron, il faut vraiment être fou. Et le témoignage que j'ai aussi de lecture de quelques vignerons qui m'ont lu, c'est que ils ont l'impression que je les ai compris, que j'ai libéré aussi cette parole par rapport à leur souffrance. Et puis, je voulais faire un clin d'œil à notre libraire suisse. C'est que, en l'écoutant, je pensais aussi à cet auteur suisse qui s'appelle Ramu, qui a écrit La fête des vignerons, un très très joli livre que je conseille à tout le monde.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres pour faire du bon vin. Il faut du beau raisin, vous dites. Sauf que pour faire du beau raisin, il faut une belle plante. Parce que ça commence par là.
C'est vrai que.
C'est le végétal qui compte.
J'ai découvert, alors ça paraît absurde, mais bon, j'assume complètement les étapes de mon apprentissage, c'est que j'ai pensé toujours, quand j'étais critique, enfin depuis que je suis critique de vin, que la matière première c'était le raisin. Or, la matière première du vin, c'est le matériel végétal, c'est le plant de vigne. Et j'avais donc trois cépages, Syrah, Grenache et Carignan, qui avaient des histoires complètement différentes. Et à chaque fois que je retournais dans ma vigne de Syrah, je la voyais dépérir à vue d'œil. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'était ma plus jeune vigne de 15 ans, alors que j'avais un vieux Carignan de presque 80 ans, qui était en meilleure forme. Donc j'ai demandé à un pépiniériste de venir faire un audit, et il m'a expliqué en fait que j'avais l'histoire de la viticulture grâce à mes 5 hectares, et que en fait ma Syrah avait été plantée au moment où la pépinière avait été très industrialisée, très clonée, et que mes clones en fait n'étaient pas bons, et qu'on avait planté de la Syrah dans le sud, alors que c'est un plant du nord, et sans souvenir de la mémoire de la plante.
Voilà, tout est là. Tout part du début, en fait, de la graine, hein, comme pour tout, au final, dans la vie.
Sauf que,
c'est la petite graine qui compte.
C'est clair, ça donne sauf ce que ça donne. Vous savez, si vous plantez un grain de raisin, il ne vous donnera pas de vigne. C'est ça. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que pépinière, ça vient du mot pépin.
Oui.
Mais si vous plantez un pépin, ça ne vous donnera jamais une vigne. On plante des sarments.
Des sarments, ouais. Le climat, hein, on va terminer avec le climat, qui est un paramètre essentiel et immaîtrisable. On a vu le désastre du gel en France, mi-avril, avec des vignes dévastées. C'est un drame absolu parce que le gel comme ça qui arrive pile au mauvais moment, c'est 1 an voire 2 ans de travail anéanti. Vous l'avez vécu ça aussi?
Heureusement, je n'ai pas vécu le gel et heureusement aussi, c'est très rare. Dans le Languedoc, là où il a vraiment éliminé 50 à voire 80% du vignoble, il ne va pas y avoir beaucoup de 2021 en France. Et même, j'ai fait peu de millésimes, mais en si peu de temps, j'ai vu la violence climatique se déployer.
Bon, on pense évidemment à tous les agriculteurs qui nous écoutent, les vignerons, mais pas seulement, qui sont dans la souffrance en ce moment, notamment en France, à cause de ces désastres climatiques. Merci beaucoup, Laure Gasparotto. Vigneronne est paru chez Grasset, vous avez séduit nos libraires. Félicitations.
Merci.
À bientôt, Laure. Idir nous a quittés le 2 mai 2020, il y a 1 an tout juste, nous lui avions rendu hommage en plein confinement. Un moment douloureux pour de nombreux artistes, dont Zebda et Swad Massi, qui avaient témoigné ici même. Le chanteur Kabil a bercé la vie familiale et l'enfance de nombreux Algériens et au-delà de nombreux francophones amoureux de sa musique subtile, sensible et profondément humaniste. Voici pour ce triste anniversaire un titre interprété avec l'artiste ougandais Geoffrey Oryema, lui aussi disparu. À suivre notre séquence Livre de poche avec Jean-Christophe Ruffin et Didier Van Kovelaert. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
قيم ذا الحباب ذي سلامة يا ويقادي غي حملة ما دل دغزي العمار يا دلو غالغر ذا غروة ما يلا وان دغث تشوف يا اسمح دقول روح نبنينا قل Yeah.
Regretter Idir avec le regretté Geoffrey Oryema aussi. Et ce magnifique titre, Exil. Notre séquence livre de poche à présent avec Didier Van Kovelaert qui sort La bienveillance est une arme absolue aux éditions J'ai lu. Un livre qui donne une sorte de méthode pour vivre autrement malgré les attaques, la bêtise et la haine.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Comment peut-on résister? Comment peut-on rester bienveillant quand on se fait attaquer injustement, par exemple, quand on se fait mépriser, ou pire, humilier? Comment on fait?
Ah ben, le but, c'est de désarmer l'adversaire. Déjà extérieurement, répondre à l'agression par l'agression, ça condamne à l'escalade. Donc ça ne mène nulle part, on atteint le plafond et on retombe. Ça n'ouvre pas de nouvelles voies. Si vous désarçonnez l'adversaire, l'assaillant, par quelque chose qui n'est pas sur le même registre, là, vous marquez un point. Si vous essayez de comprendre par empathie pourquoi il réagit comme ça, et là, vous saurez où attaquer, où est le vrai point faible. La raison, des gens parfois ont des raisons parfaitement légitimes de faire mal. Mais si vous allez mettre le doigt dessus, là, vous allez retourner la personne.
Ça permet de désamorcer. Donc, et surtout, il ne faut pas avoir peur, c'est ce que vous racontez.
Voilà, et puis il faut aussi se protéger de l'intérieur, parce que la rancune, la haine, recuit de l'envie de vengeance, c'est des toxines que vous infligez à vous-même, on le voit très bien au niveau hormonal. Dès le moment où vous acceptez ça, vous acceptez que l'ennemi gagne à l'intérieur de vous. Et puis, l'humour de la situation qui désamorce.
C'est ce que vous avez fait toute votre vie, Didier Van Kovelaert. Vous racontez plein d'histoires personnelles, et notamment une qui, comme pour votre prof de gym dont il est question, m'a fait couler une larme. Ce prof qui vous a pris en grippe un jour, et vous vous retrouvez souvent à l'écart, comme ça, sur le banc de touche, pour vous occuper et pour vous consoler, vous écrivez des histoires sur lui.
Oui, mais pas n'importe quelle histoire. Je me venge pas avec mes armes. Quand j'ai appris à écrire à l'école, j'ai tout de suite compris que les mots seraient mes meilleurs amis dans la vie et seraient les armes les plus efficaces. Et là, ce type, ce prof qui me pourrit la vie, je veux dire le harcèlement moral, la maltraitance psychologique, beaucoup d'enfants ont connu ça. Celui qui fait rire à vos dépens, qui fait exprès de me priver de là où je suis le meilleur en sport pour me mettre là où je suis nul. Dans les sports collectifs, football, je vois passer un ballon, je pense à autre chose, je dis tiens, il y a un ballon, quoi. Je vois pas l'urgence de courir après, de le chipper à un autre. Donc évidemment, allez sur le banc de touche, l'autre naze, là.
Et c'était à Nice, c'est pour ça que vous faites un peu l'accent.
C'était à Nice.
C'est pas ça l'accent du soir, mais c'est pas grave.
Faut quand même. Alors le mollusque va te mettre sur le banc de touche.
C'est mieux.
Et donc, il faisait marrer tout le monde. Et moi, je faisais quoi à ce moment-là? Je prenais mes carnets et je notais ce qui lui arriverait dans le chapitre que j'écrirais le soir. C'est-à-dire que j'avais transformé ce prof en tueur à gages, victime de la guerre des gangs, et je le torturais avec un sadisme délicieux. Je glissais un oursin dans le slip, dans les nucléants, je le mettais dans une bassine d'acide chlorhydrique, où il fondait comme un cachet d'aspirine, et pour pouvoir continuer à le torturer, je l'avais rendu immortel façon Highlander.
Bon, et alors un jour, parce que je sens que c'est encore très chaud chez vous, un jour il vous demande, mais pourquoi tu souris sur le banc de touche?
Je suis sur le banc de touche. Non, et surtout, il me dit, Victor Hugo, là, tu te marres rien tout seul, fais-nous profiter. Et là, j'ai dit, Ok, il ne se doute pas que, oui, c'est assister à une exécution capitale, mais la sienne. Et je me mets à lire le passage. Évidemment, il y avait son nom, Tony Pirelli, dans l'extrait. Et je me dis, pour une fois, bon, je vais me faire renvoyer, mais tant pis, autant mettre le ton et j'aurai les rieurs de mon côté. Sauf que personne ne rit et je lève les yeux à un moment donné et je vois une larme qui coule sur la joue du prof. Et à la fin, il me retient dans les vestiaires et il me pose cette question que j'attendais pas du tout. Il me dit, t'as déjà écrit un truc comme ça sur un autre prof? Et là, je ne saisis pas la perche de la circonstance atténuante qu'il me tend peut-être. Je dis, non, vous êtes le premier. Il dit, bon, ça va.
Et alors, il va vous demander de lui raconter ces histoires-là, de continuer à écrire sur lui. Et vous allez découvrir beaucoup plus tard qu'en fait, il avait perdu son fils. Cette année-là, qui vous ressemblait. Et il avait envie de se suicider. Et en le tuant dans vos histoires, c'était une façon pour lui, finalement... voilà, de se sortir de cette situation-là. Et il vous dit, vous m'avez sauvé la vie.
Ouais, et il me dit ça, 7 ans plus tard, au moment où paraît mon premier roman. Il vient dans la librairie avec le roman.
À Nice.
À Nice, qu'il avait lu. Et d'abord, premier truc, il me dit sur un ton réprobateur, pourquoi je suis pas dedans? et après, il me dit, voilà, je voulais te dire que, sans le savoir, tu m'as sauvé la vie. Parce que je voulais vraiment en finir et je me suis pas tué parce que quelqu'un le faisait pour moi.
Voilà.
On peut faire de la bienveillance sans s'en rendre
sans
compte,
s'en rendre compte,
croyant qu'on se venge. Et après, ce que la personne vous offre en vous disant ça, c'est merveilleux.
Alors, cette bienveillance-là est magnifique. Il y a aussi la bienveillance désirée, Didier Van de Kovelaert. Un jour, vous entendez votre père, qui souffre d'un handicap à sa jambe, dire à votre mère, le jour où je suis en fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Alors, vous décidez de mettre les bouchées doubles pour devenir le plus jeune écrivain du monde. Car votre père aurait aimé écrire, lui, des histoires. Il aurait aimé écrire des textes pour le théâtre ou pour le cinéma.
Mais surtout, je me dis, je vais faire quelque chose de tellement super que ça lui donnera envie de vivre, même en fauteuil roulant. Et c'est là que je fais plus aucun devoir d'école, je passe mon temps à écrire, à envoyer les manuscrits chez les éditeurs, à me fabriquer des lettres de recommandation aussi, parce que j'avais entendu à la radio qu'il fallait avoir des lettres de recommandation. Donc,
il y avait allez chez un libraire qui vend des autographes et vous
avec
copiez
un papier calque.
Et vous copiez l'écriture de Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre, Henri Troyat, Françoise Sagan. Et je m'envoie des lettres de recommandation. Alors, ça n'a jamais marché, ce qui...
C'est ça qui est dingue.
Je me suis dit à 9 ans et demi, bon finalement c'est très exagéré, le pouvoir des lettres de recommandation, tout le monde s'en fout. Et donc, bon, c'est pas moi qui ai sauvé mon père, les éditeurs n'ont pas voulu de mes livres et c'est la chirurgie qui l'a sauvé.
On va revenir sur quelque chose de plus rationnel, on va dire la bienveillance des plantes, une orchidée en particulier, la drachéa, qui simule la femelle d'une guêpe.
Ça, c'est parce qu'aucun pollinisateur ne s'intéresse
c'est
à
ça,
elle.
Ouais.
Donc,
et Jean-Marie Pelt a fait une étude d'ailleurs sur cette orchidée.
Elle attrape, elle fait venir le mâle de cette guêpe en imitant sa femelle par les proportions, donc visuellement, et par l'odeur, les phéromones sexuelles. Et quand le mâle arrive, et là, il essaie de copuler, il n'y arrive pas, au bout d'un moment, il repart, mais il est chargé de pollen et il va chercher une autre guêpe femelle simulée et il va ainsi faire circuler le pollen d'une fleur à l'autre.
C'est incroyable.
Donc c'est une ruse terrible. Pourquoi j'en parle dans le cadre de la bienveillance? C'est qu'elle est allée plus loin, cette orchidée.
Oui.
C'est qu'elle a pourvu cette image de femelle d'un orifice copulateur.
Pour satisfaire le mâle. Le mâle guêpe.
Peut-être pour se l'attacher encore plus durablement.
Comme ça, il a un peu de compensation.
Quoique, le but, c'est qu'il parte vite. Donc, pourquoi lui offrir en plus le moyen de s'arrêter? C'est tout ce questionnement d'intelligence dans la nature et chez les animaux. Et hélas, l'homme a beaucoup perdu, mais il reste des cas de bienveillance formidables que je raconte dans le livre.
On va terminer avec une citation de Frédéric Dard qui vous dira « Tu sais ce que c'est au fond la bienveillance ? C'est reprendre le pouvoir. C'est se dire « Je mérite mieux que de rester la victime d'un salaud. » Tu lui trouves des raisons, une détresse, des circonstances atténuantes et tu arrêtes de lui vouloir du mal. Il t'en a assez fait. Merci beaucoup Didier Van de Kovelaert.
Et merci à Frédéric Dard.
Didier Van de Kovelaert, La bienveillance est une arme absolue, est paru en poche chez J'ai lu, et son nouveau livre Le pouvoir des animaux sortira le 6 mai chez Albin Michel. Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires, on commence avec un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Oui, mon penchant naturel pour l'humour décalé, Emmanuel, a été servi avec la nouvelle bande dessinée de Caton, Les Enquêtes de Scooby-Doo, aux éditions Pawpaw. Alors, certains y verront peut-être un clin d'œil à un grand classique, surtout si je vous confirme que Scooby-Doo est un chien et que son acolyte s'appelle Sammy. Mais il faut lire cette bande dessinée pour constater à quel point Caton s'est brillamment approprié cette matière première pour en faire un irrésistible pastiche. Bref, c'est à lire si vous voulez décrocher de la normalité, surtout, et du quotidien.
Les enquêtes de, donc?
De Scooby-Doo.
Oui, pas de Scooby-Doo, de Scooby-Doo.
Non, voilà, exactement.
Aux éditions Pawpaw, toujours originales, hein, cette maison d'édition. Merci, Josiane. Au Canada, un coup de gueule en Suisse, Yasmina Giaquinto.
Oui, je suis bleue de colère. Mais qu'est-ce qui arrive à tous les éditeurs de romans durant ce premier trimestre? Y a-t-il des promotions sur la couleur bleue? Alors, je veux bien que le bleu soit associé à des valeurs très positives. D'ailleurs, Kandinsky disait qu'il développe profondément l'élément du calme, mais qu'il soit très valorisé par le monde contemporain, je veux bien. Mais au point que la couleur soit la dominante sur les couvertures des romans, nous pose un vrai souci pour les différencier sur nos tables.
Ah oui, toutes les couvertures sont bleues en ce moment.
Exactement.
Bon, pas celui de Laure Gasparotto ni de Dounalou, hein, donc nous on est sauvés. Ça va. Bon, courage à vous Yasmina. Un coup de cœur en France, Mathieu Colombe, dans le rayon des romans. Romans noirs, comme vous les aimez.
Bien sûr, et on va partir pour Bordeaux, enfin un Bordeaux sombre et poisseux. Alors, âme sensible, s'abstenir, puisqu'on a là un vrai bon gros polar très noir et maîtrisé à la perfection. Même si le postulat de départ pourra sembler bateau, le talent d'Hervé Lecorre et son jeu avec les codes du genre va transformer ça en véritable pépite. Bien sûr, la critique sociale, chère à mon cœur et au genre, est bien présente, et elle est servie par une écriture travaillée, pour le moins percutante. C'est une belle réussite, et ça s'appelle Traverser la nuit, et c'est sorti chez Rivage.
D'Hervé Lecorre, merci beaucoup Mathieu. Un coup de gueule en Belgique, je crois, Déborah Damblon.
Mais oui, Emmanuel, parce que j'ai encore parlé récemment à une autrice qui me demandait pourquoi son premier roman qui venait de paraître ne se trouvait pas en librairie. Alors j'ai dû lui expliquer que son éditeur, enfin si on peut l'appeler comme ça, en fait n'imprimait que les ouvrages à la demande, c'est-à-dire quand les libraires passent une commande et ne fait absolument aucun travail de diffusion sur l'ouvrage. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont très très envie d'être publiés, mais le monde du livre c'est très compliqué, alors il faut vraiment bien se renseigner.
C'est vrai, et il faut choisir le bon éditeur surtout, mais parfois on n'a pas le choix. Donc on fait un peu ce
mais
qu'on peut.
Mais il faut savoir alors.
C'est vrai. Merci Déborah, vous avez raison de souligner cela. Notre séquence livre de poche suite à présent avec des idées de lecture pour votre week-end du 1er mai. Voici Jean-Christophe Ruffin avec la participation de l'écrivain suisse Roland Buty. Et Jean-Christophe Ruffin donc est avec nous pour Les Trois Femmes du Consul, paru chez Flammarion, deuxième volet de votre série de polars, Jean-Christophe, très différent de vos grands romans publiés chez Gallimard. On peut être un peu dérouté car vous êtes un grand écrivain, vraiment. Et là, vous tentez l'expérience du polar façon grand public, façon roman amusant et accessible. Vous l'assumez, ça?
Bah oui, je l'assume parce que, si vous voulez, moi je les place pas du tout sur la même, dans la même catégorie, mais c'est important aussi de pouvoir parler du présent. Et c'est une manière pour moi de pouvoir raconter des choses que j'avais, dont j'avais été le témoin justement dans mes expériences diplomatiques, oui, d'ambassadeur, oui, que je ne peux pas forcément raconter directement parce qu'il y a une question de secret, etc. Mmh. Et donc en créant ce petit double, voilà, c'est un amusement, hein, je le fais sans prétention et je demande par avance l'indulgence du public et du jury, mais voilà, moi ça m'a amusé, j'espère que ça amuse ceux qui le lisent, mais il n'y a pas d'autre ambition derrière.
Bon, on est au Mozambique avec un vieil homme influent aux allures de colon qui va être retrouvé mort dans sa piscine. Évidemment, on le sait, vous avez été ambassadeur et il y a beaucoup de vérités camouflées dans ce roman, Jean-Christophe Ruffin. Parlons d'Aurel Timescu, un agent catastrophique qui veut en faire le moins possible. Et personne n'en veut de ce gars-là, tout le monde le connaît, mais il est impossible de le licencier.
Ouais, ben ça existe, hein, ça existe. Ben oui, il est titulaire. Alors, c'est vrai, en France, ça c'est le Graal, c'est quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes titulaire. Bon, même si vous voulez pas faire grand chose, on peut pas vous mettre à la porte. Alors lui, il passe d'un poste un peu minable à un autre. Et puis, en fait, s'il ne veut rien faire, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce que au fond, il a une assez haute idée de sa vocation, qui est plutôt musicale, en fait. Voilà, c'est un artiste. Et puis, de temps en temps, ben il tombe sur une énigme, il tombe sur quelque chose, surtout une injustice. Alors ça le révolte. Et là, cet homme que tout le monde méprise ou pense un peu nul et dans ce coin, eh ben, il révèle, et ça, moi, ça me touche beaucoup parce qu'il révèle des talents cachés qui sont, au fond, son intelligence, sa générosité. Et ça, j'aime bien cette idée que voilà, derrière des personnages comme ça, parfois, il y a des trésors.
Il y a des trésors et c'est un artiste, c'est vrai. Il a des allures de Columbo, on pense beaucoup à Columbo. Il est assez drôle et fait tout pour décourager ses supérieurs dès qu'il arrive sur un poste. Il joue des airs de piano quand il rentre chez lui, les Beatles notamment. Yesterday qui va révéler quelque chose en lui, on va pas tout raconter. Mais le consul, malgré tout ça, va miser sur lui. Alors on a demandé à Roland Buty de lire un extrait qui évoque ce lien. Bonjour Roland Buty.
Bonjour, bonjour.
Alors il y a un passage dans le livre de Jean-Christophe Ruffin qui révèle finalement l'essence même de ce que sont ces personnages. Vous allez lire sur la musique de Yesterday, je vais vous faire un signe, d'accord ?
Le drame avec les jeunes, c'est qu'ils croient en l'humanité. Mortereau, plus qu'aucun autre de son âge. Éduqué par des parents enseignants à Sens, le jeune Didier avait tété dès sa naissance le lait doucereux d'un marxisme tempéré d'humanisme. Il était profondément influencé par Rousseau, auteur auquel il avait consacré son mémoire de lettres modernes. Quand il prit connaissance, trop tard pour le récuser, du dossier d'Aurel, Mortereau mit la carrière chaotique du pauvre réfugié roumain sur le compte de la méchanceté humaine. Il saurait bien, lui, redonner confiance à ce déraciné, probablement blessé par la vie, et en tirer le meilleur. Il prit la décision de le sauver.
La musique de Yesterday, jouée au piano par Dave Gosin, avec cette lecture de Roland Buty, il prit la décision de le sauver. Et c'est ce qu'il va faire, ce consul. Il va le soutenir malgré sa mauvaise volonté flagrante. Et ça aussi, ça existe, de jeunes consuls qui ont envie de sauver certains agents, certains diplomates.
Bah oui, mais ça c'est le problème des jeunes, c'est qu'en effet, ils se résolvent pas à l'idée qu'il y a des gens qui sont comme ils sont. Mais c'est pareil pour les médecins, vous savez, moi j'ai commencé dans la médecine, parfois on a envie de changer la réalité des choses, on a envie que les gens soient différents de ce qu'ils sont, puis ouais. Bah, c'est pas forcément possible.
Il y a aussi l'ambassadeur, qui est dans le calcul également, ne pas faire de vagues pour accéder à un meilleur poste. Les postes africains sont, comme vous l'écrivez, Jean-Christophe Ruffin, concernant en tout cas vos personnages, des purgatoires. Pourquoi des purgatoires ? Pourquoi est-ce moins intéressant d'être dans un pays africain qu'en Chine, par exemple ?
Bah, pas tous, parce que par exemple, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ou même le Cameroun, ce sont des grands postes. Mais
vous étiez au Sénégal et en Gambie.
Oui. Mais il y a des petits postes en Afrique, parce que la France s'accroche à une règle qui est d'avoir des ambassadeurs partout. Alors, parfois, ça correspond à une réalité, mais parfois, c'est juste quelqu'un, un homme tout seul, ou une femme, avec son ordinateur, par exemple, je ne sais pas, au Libéria. Mm-hmm. Donc, c'est des tout petits postes, si vous voulez. Alors, évidemment, ils sont ambassadeurs, ils sont contents, parce qu'ils ont le titre, mais ils attendent des postes plus gros, c'est normal.
Plus valorisants.
Oui.
Mais il y a beaucoup de choses, parce que vous évoquez la difficulté de travailler avec le gouvernement en place dans des pays africains, la corruption, le clientélisme, comme ces Français installés à l'étranger qui se comportent en colons.
Oui, alors
on en croise pas mal, d'ailleurs, notamment dans les départements d'outre-mer où c'est encore plus facile pour eux.
Oui.
Ce sont des types infâmes quand on les voit.
Parfois, il y a des gens qui me disent, mais ce hôtelier là qui est mort au début du livre, ça n'existe pas, c'est fini, etc. Malheureusement, moi j'ai eu l'idée du livre en étant moi-même pensionnaire, si je puis dire, dans un hôtel comme ça, avec sous les yeux exactement la personne qui m'a servi de modèle pour l'écrire, et c'était il y a un an.
Merci Jean-Christophe.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Les trois femmes du consul de Jean-Christophe Ruffin est paru en poche donc chez Folio. Son nouveau livre dans la même série d'Aurel le consul vient de paraître, La princesse au petit roi. C'est chez Flammarion. Dans un instant, on vous emmène en pleine nature avec la Suissesse Dounalou qui prône un retour au dépouillement. Avant cela, voici le nouveau titre de Giorgio dans la librairie francophone.
Comment espérer un paradis
quand tu reviens des enfers. Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole, mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Liguer les uns contre les autres, l'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère des jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer ont divisé la terre en territoires. Changer l'eau en vin, le plomb en or. Trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord. Alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à ces débounards. Larami, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien.
Giorgio et son nouveau titre, Danse.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Dounalou.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de la RTS à Genève. Vous publiez Les Printemps Sauvages, un livre sur le retour à la nature et à l'essentiel. Votre personnage a 13 ans, elle est solitaire, rêveuse, elle se nourrit de la nature à tous les sens du terme, elle découvre son corps surtout.
Elle est, en fait, pour elle c'est pas un retour à la nature parce qu'elle grandit vraiment tout près d'une forêt et elle côtoie surtout ses chiens, les arbres, le lac, les grenouilles et pas tellement d'humains. Elle a sa maman qui est avec elle mais qui est très absente en fait.
Ouais, il y a comme une forme de sensualité comme ça dans la nature. Sans sauvager, c'est notamment se connaître nu, dites-vous.
Elle est dans une curiosité en fait avec tout ce qui l'entoure, avec tout ce qui est vivant autour d'elle et ça passe beaucoup par le corps, par les sens et par une joie d'être en relation et de découvrir toutes ces sensations qui vibrent en elle et qui la mettent en mouvement.
C'est vrai qu'elle est en mouvement tout au long du livre. Il y a à la fin de ce roman d'ailleurs un petit manuel d'ensauvagement avec quelques règles à suivre. La nudité donc, mais aussi l'importance de la contemplation des cailloux. Plonger ses mains dans la terre, y rester un moment comme ça, hurler. Bref, il faut s'approprier l'espace. C'est ça. Duna.
Oui, c'est ça. C'est une enfant qui est un peu une enfant sauvage, donc qui n'a pas appris les codes sociaux. Donc, quelque part, elle a cette grande liberté d'aller à la rencontre de tout, que ce soit des humains, des humaines, des choses, des cailloux, avec une curiosité et simplement guidée par son enthousiasme, je crois, surtout.
Vous l'avez expérimenté, ce petit manuel d'ensauvagement, vous ?
Ben oui, il vient de moi, hein, donc il vient pas de nulle part. Après, c'est pas pour moi, c'est pas tellement des règles, ce serait plutôt des non-règles parce que ouais. C'est pas
des commandements.
Non plus des commandements. Par contre, un début d'énumération qui appelle plutôt à chacun, à chacune de poursuivre cette liste et de laisser libre cours à tout ce qui pourrait.
Oui, d'inventer soi-même.
Donner envie ouais. D'inventer ce rapport au monde qui soit le sien et qui soit pas. Voilà, celui qu'on nous propose tout cuit, tout fait, mais celui qui nous soit propre, qui nous soit libre.
Oui, faire un pas de côté, c'est un peu ça. Alors cette jeune fille, elle découvre un jour qu'elle a un frère et un père qui se sont enfuis un jour. Sa mère lui raconte enfin l'histoire et elle décide en même temps de quitter le lieu où elle vit. Elle décide comme ça de prendre le risque de partir sans rien, à travers la campagne, sans se retourner. Alors elles vont faire des rencontres, elles apprennent à vivre autrement et encore une fois votre narratrice apprend à connaître son corps, c'est vraiment en filigrane. Elle compare les plantes à son sexe, vulve, lèvres, clitoris, tout prend un nouveau sens, rien n'est caché, rien n'est vulgaire ni sale selon elle, selon vous je suppose Dounalou.
Oui, il y a aussi toute une thématique de se libérer de la honte, en fait, que le corps soit pas un objet de honte et que le plaisir et la joie éprouvés par le corps soient célébrés et soient une autonomie et une capacité d'éprouver sa vie, d'éprouver son corps et de rencontrer l'autre, les autres. Parce qu'il me semble que c'est vraiment l'endroit, enfin, la honte peut, et le rapport au corps et les non-dits du corps et de la sexualité n'entretiennent que la violence finalement et la domination.
Oui, c'est-à-dire que vous le laissez entendre en fait qu'on est éduqué dans une pudeur qui paradoxalement pervertit. C'est-à-dire qu'on a oublié comme ça de nommer les choses, on apprend à se cacher des autres, la pudeur est une invention de la société moderne qui pervertit, vous pensez ça vous ?
Oui, je pense ça, oui. Je pense qu'elle pervertit et qu'elle rend justement secret beaucoup de choses qui du coup peuvent entretenir des violences qui ne seront pas dites, qui vont être cachées, et des traumatismes et un sentiment de honte et de culpabilité.
Bon, on va voir du côté de nos libraires, hein, comment ils ont perçu votre livre Dounalou, un livre osé, un livre qui nous fait prendre l'air, en tout cas, avec Mathieu Colombe pour la France.
Ouais, alors autant le dire tout de suite, ça n'a pas marché pour moi.
Ah.
Pourtant, de belles problématiques sont soulevées et certains sujets d'importance à mon goût sont abordés et plutôt correctement. Mais voilà, je suis resté à côté. Peut-être l'écriture un peu trop vaporeuse pour moi ou la volonté de rester justement dans cette forme d'innocence dans le propos qui, bon, bah, ça n'a pas marché. Quoi.
Bon, Déborah Damblon, en Belgique, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Ah non, pas du tout, Emmanuel. Moi, ça a tellement bien marché, j'ai trouvé votre récit mais réellement enchanteur, mais au sens étymologique du terme, comme si on était touché par un chant ou par de la magie, parce que dès les premières phrases, on se retrouve, je trouve, mais aspiré dans ce monde légendaire, organique, charnel, et puis on se laisse prendre et on vogue avec vos personnages dans leur univers, et puis quand on en ressort, on est nourri de leur vécu, et là, on prend conscience à quel point ce conte nous a permis de prendre du recul et en fait nous a parlé de nous ici et maintenant.
Oui, voilà, Dounalou. C'est vrai que Mathieu est un peu dur parce que c'est un livre sur le dépaysement, d'un dépaysement, je dirais, un dépaysement total et d'une grande liberté. Au début, c'est vrai que c'est très onirique, un peu bavard. Et puis on se rend compte que vous développez l'idée du « tout est possible ». À partir du moment en fait où on se dépouille, où on entre en contact avec la nature pleinement et où on accepte et dévoile son corps, tout peut se produire.
Oui, tout est possible et puis c'est en tout cas, je crois que moi j'étais portée par le regard de cette petite fille d'abord qui devient une jeune femme ensuite qui garde un regard poétique, un regard amusé, un regard curieux et surtout de la joie en fait, il y a vraiment un. Pour moi, ma boussole à moi, c'était la joie, quoi. La joie d'éprouver cette découverte et la joie d'être en vie, d'être dans une envie de célébration. Quoi.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un livre très élaboré parce qu'il y a plein de subtilités comme ça. Vous jouez avec beaucoup de choses, hein, à la fois avec le style, avec les personnages, avec la condition des personnages, avec ce qui est possible et impossible, avec le jugement de la société aussi. Et mère et fille, elles vont faire de longues étapes comme ça. Elles vont découvrir des choses. La mère, elle veut continuer son voyage. La fille va s'arrêter un jour, à l'âge de 18 ans presque. Elle arrive sur une île et là, elle dit « j'ai trouvé mon lieu ». On a tous un lieu à soi qu'on trouve quelque part un jour.
Oui, en tout cas, là, c'est un lieu qui lui permet de ce moment de détachement par rapport à sa mère et peut-être une étape pour devenir vraiment qui elle est et indépendante. Et puis, c'est un lieu où elle va rencontrer Barnabé aussi,
oui.
Qui est un personnage important et puis qui va être sa première histoire d'amour. C'est une île, donc il y a tout ce côté aussi du rapport à l'océan qui est très fort pour elle.
Alors c'est vrai, Barnabé Dounalou, là encore, c'est un personnage indéfini, fille et garçon à la fois. Il faut accepter ce flou. Quel est le message là? Qu'il ne faut pas se soucier du sexe de ceux que l'on rencontre. Là encore, c'est à contre-courant de la société.
Ben oui, c'est un peu une remise en question, ou en tout cas une question autour du genre et des codes qui sont liés au genre et qui sont avant tout culturels. Et puis c'est aussi une réalité en fait de personnes qui naissent, qui sont intersexuées et qui n'ont toujours pas aujourd'hui le respect de la société qui leur demande forcément d'adhérer, d'être un genre ou un autre, parce qu'on n'accepte pas, alors que c'est une réalité physiologique quoi, qui est possible chez les humains.
Et les préférences sexuelles alors chez votre narratrice, qui ne sont pas définies comme ça, vous pensez aussi qu'en général elles ne sont pas définies, qu'elles peuvent varier au fil des rencontres?
Bah oui, pour moi c'était pas un sujet en fait, c'est le fait de rencontrer un autre, un être humain, mais c'est pas, pour elle c'est pas une question, est-ce que c'est une femme, un homme, c'est pas une question, quoi. Elle rencontre une vivante, un vivant, c'est tout.
Et on tombe amoureux ou pas? Amoureuse ou pas, c'est ça?
Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est après? Être amoureux, être amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est un vaste sujet, mais. De vivre ce qu'on a à vivre, en fait. De pas tellement se cacher derrière des codes ou des j'ai pas le choix ou des. C'est ce que font les personnages des Printemps Sauvages dès le début. Elles se disent j'ai le choix, en fait.
Ouais.
Voilà. Donc on part. À un moment donné, quand elle est plus grande, après l'île, il y a tout le projet dans la forêt avec tout un groupe.
Avec une communauté collectif. Libre.
Oui. Ouais. C'est ça.
Qui veut une autre vie, un autre monde aussi.
Oui, et qui le fait, en fait. Et moi, mon conseil, c'est plutôt l'autre monde, c'est à nous de le faire. Hein. Il va pas nous tomber dans les bras, c'est nous qui faisons le monde.
Il faut vivre ensemble et tout pratiquer, vous dites. Hein, c'est ce que dit cette communauté-là. Tout essayer dans tous les domaines, sportif, sexuel, intellectuel, culturel, tout.
Oui, en tout cas, être ouvert, je crois que c'est ça, être curieux, garder cette curiosité.
Ouais, mais qui peut dire dans une vie qu'il a tout essayé, tout pratiqué?
Non, personne. Ouais. C'est l'ensemble de l'humanité en entier qui peut dire ça, peut-être, mais nous sommes tous liés, toutes liées les uns aux autres.
Ouais, Laure Gasparotto, vous écoute attentivement. Vous avez tout essayé, vous, Laure?
Non, je pense pas. J'ai beaucoup de lacunes.
Ouais. Bon, quelles sont les limites de la fuite, alors, Dounalou? Aucune?
Les limites,
limites de la fuite et de la liberté.
Elle se confronte. Elle a des. Dans le moment collectif, il y a aussi du conflit.
Ouais.
Et il y a un retour à un moment donné à de la solitude parce qu'en fait, il y a des difficultés. Ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup à apprendre aussi.
Ouais.
Que c'est pas quelque chose qui est donné. Donc ça demande un vrai travail et une vraie connaissance de soi. Et pour ça, elle est en chemin, quoi. Ce personnage.
Voilà, un livre d'apprentissage avec ce roman. Merci beaucoup, Dounalou.
Merci.
Les Printemps Sauvages, cet ouvrage est paru aux éditions Zoé. Vous publiez aussi une BD avec Justine Saint-Lô, l'affaire Clitoris, chez Marabule. Une enquête ludique et un peu osée sur l'organe féminin que découvre aussi avec Volupté, votre personnage dans le roman.
Et oui. Pour en finir avec les non-dits sur cet organe qui a un peu disparu des planches anatomiques pendant un certain temps.
Bon, voilà, vous
et
dites
de
tout.
L'inconscient collectif.
Tout est dans ce livre à découvrir donc. Merci beaucoup, Dounalou. À bientôt. On termine avec un titre numéro 1 dans un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, on écoute Toto H, qui est numéro 1 en ce moment en Bulgarie.
Грешили бяха ръцете ми, че са те докосвали, както очите са светели. Грешили бяха краката ми, че са те следвали навсякъде, а пък душите ни разплетени. И ти дадох всичко, което съм имал, ако го нямах от някъде съм го взел, за да ти го дам. Има смисъл, но знам, че не го намирам, що в сърцето ми за тебе бие, значи ли, че не е храм. Нещо догаря и знам, че не е жара, в мен ли изгаря 21-я ми грам. Някой е виновен и знам, че не е държава, щом сред толкова много хора под небето аз пак съм сам.
Душата ми вече е на парчета, някой казва това ти е късмета, любовта за теб не е заета, любовта за тебе е проклета.
И чудесе дали не е магия,
парк.
Мислите ми бяха пръсти, ти щеше да се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни и няма как да бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги.
Un extrait du nouveau titre de Toto H, numéro 1 en ce moment en Bulgarie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince et Rémi Sistiaga à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Mathias Volant, Christophe Magère et Juliette Drone en France, Nicolas Julliard et Sophie Gricoucheux en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. Le grand voyage francophone continue la semaine prochaine avec India Desjardins, Eric Orsena. Bon week-end à tous, bon week-end du 1er mai. À bientôt, salut.